Vous écoutez
RMC. RMC Sport Show.
Thibaut Giangrande.
Salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue dans le RMC Sport Show, le rendez-vous sport du dimanche soir à la radio. Une heure pour revenir sur l'actu fort du week-end avec, comme toutes les semaines, notre membre de la Dream Team, Maryse Evangépé. Salut Maryse.
Salut, salut.
Alors Maryse, la semaine dernière, il avait posé un RTT. Là, c'est un arrêt maladie. J'ai hâte de voir l'excuse que va trouver Oussem Loussaïef pour ne pas venir nous voir la semaine prochaine. Bon. On l'embrasse quand même à Oussem, comme on dit. Hein, c'est ça.
Un peu de miel, un peu de vitamine C, tout ça va passer.
Au programme ce soir, deux Français sur le podium MotoGP du Mans. Une course folle, finalement remportée par un Australien devant Johan Zarco, qui sera notre invité en direct dans un instant. Le top 14 approche de son dénouement, mais ça reste totalement indécis. Hier, Bayonne a réalisé l'exploit à Toulouse. L'entraîneur de l'Aviron, Yannick Bruce-Hurem, c'est dans un quart d'heure. Roland Garros, c'est dans deux semaines. Nadal et Djokovic sont en répétition en finale du Masters 1000 de Rome, un combat de titans à suivre sur RMC dans le RMC Sport Show. Et puis, un Français qui brille sur le Giro, Victor Laffey. Vous ne le connaissez pas? C'est normal, c'est sa première victoire chez les pros, c'était hier. Il sera l'invité du RMC Sport Show à 19h45. Mais d'abord, du football. Si, si, et oui, à journée particulière, RMC Sport Show particulier, les 10 matchs de la 37e journée de Ligue 1 à 21h sur RMC. Peut-être le match du titre pour Lille. Si le LOSC fait mieux contre Saint-Etienne que le Paris Saint-Germain contre Reims, il sera sacré. Bonsoir Valentin Jamin, l'envoyé spécial d'RMC dans le Nord. Soirée particulière, les supporters sont là Valentin, les supporters lillois.
Bonsoir Maryse, bonsoir Thibaut, en effet, bonsoir. Énormément de supporters, plusieurs milliers se sont massés devant le parvis du stade dans un premier temps, et ensuite se sont décalés de quelques mètres pour aller devant l'hôtel où les joueurs lillois faisaient leur mise au vert. On a vu des joueurs lillois filmer ces scènes incroyables avec des fumigènes, beaucoup de pétards, de chants et de tambours. Ils les ont filmés, ils ont reçu la clameur des supporters qui sont descendus dans la rue juste en bas, attendre le bus, et depuis 25 minutes, le bus est sorti de l'hôtel, il a fait littéralement 20 mètres, il est bloqué depuis un quart d'heure, il y a énormément de monde, impossible de dire combien, mais au moins 3000 personnes, au moins franchement, sont venues pour accueillir les joueurs pour, on espère, du côté de Lille, le match du titre, ambiance très très impressionnante ici à Lille.
Merci beaucoup Valentin, Jamin, qu'est-ce que ça va être s'ils sont champions ce soir?
Oui, alors il faudrait quand même laisser passer le bus, parce qu'il faudrait pas qu'il perde par forfait.
Oui, ce serait dommage.
Serait ballot.
C'est vrai qu'on ça ferait rire 5 minutes, mais pas tout le monde.
Oui, non, pas
Rendez-vous en tout cas à 20h dans le RMC Sport Show pour une soirée foot exceptionnelle. Ce sera aussi peut-être le dénouement aujourd'hui en Espagne. Le multiplex, nous on aura le nôtre en France à 21h. En Espagne, ça a commencé à 18h30. Bonsoir Anthony Reich.
Bonsoir Thibaut, bonsoir Maryse, bonsoir à tous.
Bonsoir.
Et c'est peut-être le soir de l'Atlético de Madrid, Anthony, ce soir.
Ouais, c'est peut-être le soir de l'Atlético. En tout cas, pour l'instant, le suspense est relancé. 35 minutes de jeu dans cette première période de cette 37e journée de Liga. Et le Barça qui mène 1-0 et qui revient provisoirement deuxième. L'Atlético, de son côté, est toujours tenu en échec malgré une grosse domination face à Osasuna, 0-0, et score identique pour le Real face à Bilbao, pardon, sur la pelouse de San Mamés, 0-0. Les joueurs de Zidane qui sont un petit peu en difficulté.
Donc l'Atlético n'est pas encore champion. Merci beaucoup Anthony, à tout à l'heure, 19h05 du direct, encore et toujours avec du tennis, la finale du Masters 1000 de Rome. On est à deux semaines de Roland Garros, c'est Nadal contre Djokovic. Et mon cher Eric Salio, bonsoir.
Bonsoir.
J'ai l'impression que t'es pas couché.
Ouais, ça sent le troisième set, maintenant on peut le dire, puisque après le gain du premier pour Nadal, 7 jeux à 5, eh bien Djokovic a réagi en champion, en numéro 1 mondial, et il s'est littéralement envolé dans cette deuxième manche, puisqu'à l'instant il vient de breaker une deuxième fois l'Espagnol. Il mène 5 jeux à 1, donc il va servir pour le 7. Je suis un peu interloqué parce que il faut préciser qu'hier, Nadal Djokovic a joué 4h56 entre la fin de son quart et sa demi-finale face à Sonego, donc on le pensait émoussé. Évidemment, on s'est trompé. Ça va sûrement se jouer donc à la bagarre sur un troisième set.
Et ce sera à vivre évidemment dans le RMC Sport Show. Merci Eric, à tout à l'heure, 19h05. Le sport mécanique français a brillé aujourd'hui à la maison.
Il franchit la ligne d'arrivée, Jack Miller. La victoire donc pour le pilote australien. La deuxième position pour Johan Zarco, auteur d'une fantastique remontée, lui qui n'était que 11e à l'issue du premier tour. Et le podium, la main levée pour Fabio Quartararo qui s'arrache, et malgré son opération du bras il y a une dizaine de jours, qui termine donc sur la troisième place de ce Grand Prix de France. Et l'information évidemment, c'est que El Diablo, le petit prodige du MotoGP, reprend les commandes du championnat du monde.
Deux Français sur le podium MotoGP du Grand Prix du Mans, mais pas de Marseillaise. Johann Zarco, deuxième. Fabio Quartararo, troisième, devancé par un Australien, Jack Miller. Vous l'avez peut-être vécu en direct sur RMC avec le commentaire de Paul Lafitte et de Jean-Luc Roy, qui est aussi ce soir dans le RMC Sport Show. Bonsoir Jean-Luc.
Bonsoir Thibaut, bonsoir Maryse, bonsoir à tous.
Alors avant de revenir sur les performances spécifiques des Français, il faut déjà dire que ce Grand Prix du Mans aujourd'hui a été assez incroyable. On a été gâtés en termes de spectacle, Jean-Luc.
Ah ben, un scénario absolument formidable dont on ne peut que rêver, j'allais dire les pilotes un peu moins, parce que le pilotage d'une machine de Grand Prix, je rappelle toujours, plus de 300 chevaux avec pas moins de la surface d'une carte de crédit au sol, c'est extrêmement compliqué. Les risques, c'est à tout moment. On a vu pas mal de pilotes, et Marc Marquez en l'occurrence, se faire piéger, et les deux pilotes Suzuki, mais ceux qui sont passés entre les gouttes, eh bien l'ont fait de manière absolument magnifique. Il a fallu changer de monture, ce qui est donc autorisé évidemment dans le cadre des Grands Prix, puisque les pilotes se sont élancés avec les pneumatiques lisses pour une piste sèche, et puis la pluie a commencé à arriver dans le courant du 3e, 4e tour, et ils sont tous repassés par la voie des stands, et là on a eu une bataille absolument phénoménale.
Ouais. Alors tu sais, cette fois-ci j'ai bien fait mes devoirs, parce que je me suis dit quand même, Jean-Luc, ça fait des années qu'il essaye de me faire aimer la moto et la Formule 1, donc j'ai tout regardé, j'ai tout écouté, et heureusement que tu nous expliques tout bien d'habitude, parce que au début, je t'avoue que j'étais un peu perdu quand j'ai entendu les interviews des gars qui m'expliquent, oui, on était encore un slick, on était en slick, en flag to flag. J'ai dit, mais de quoi il me parle? Et quand tu me l'expliques, effectivement, donc j'ai bien compris la semaine dernière, les pneus sur piste sèche, il s'est mis à pleuvoir, il faut prendre la décision de passer au stand pour changer. J'ai cru comprendre en plus que l'un des deux s'était trompé, avait failli se tromper de stand. Enfin, ça avait été assez rocambolesque, c'est ça? Et tu vois, j'ai tout suivi. Et finalement, ça m'a intéressé. Je me suis dit, mais. Il y a quand même des stratégies. En plus, il est complètement frais, ce gamin, parce qu'il t'explique mais j'ai couru pour aller chercher l'autre moto parce que je me suis rendu compte de mon erreur. Donc, comme quoi, quand on est en plein dans le jus, on peut faire des erreurs. Et puis, on n'oublie pas aussi l'opération. L'opération, moi, je pensais sincèrement, c'est Quartararo aussi ou c'est Zarco?
Oui, c'est lui.
Je les confonds. Je pensais sincèrement que après une opération aussi fraîche que ça, puisqu'on se rappelle qu'il avait un syndrome des loges, donc en gros on ouvre le muscle du biceps et on laisse respirer le muscle, c'était il y a à peine quoi, une semaine, 10 jours. Et là,
oui, c'était le mardi suivant le Grand Prix d'Espagne.
Et il te tient un Grand Prix jusqu'au bout, quand on sait la tension que tu peux avoir quand tu fais ce genre de choses. Là, j'avoue, je reconnais qu'il y avait tous les ingrédients pour que ça soit passionnant. Tu vois, comme quoi tout arrive.
Et Fabio Quartararo a finalement terminé troisième de ce Grand Prix dont il est parti en pole position, battu par l'Australien Miller et son compatriote Johann Zarco, qui termine deuxième pour la deuxième fois de son Grand Prix national. Et il est en direct ce soir dans le RMC Sport Show. Bonsoir Johann Zarco.
Salut.
Félicitations, bonsoir. Deuxième place, vous êtes passé pas loin de la victoire. Surtout que vous y avez cru quand vous avez doublé Quartararo. Vous pensiez être en tête, c'est ça à ce moment-là?
Oui. En fait, avant de le doubler, je pensais que c'était lui qui était en tête. Et donc, que c'était plutôt bon parce que je voyais que je le rattrapais plutôt à bon rythme. Mais avant de le dépasser, j'ai bien vérifié mon panneau et je me suis vu encore troisième. Et ensuite, j'ai commencé à voir le Jack Miller qui était quand même très très loin. J'espérais le rattraper, mais ça n'a pas suffi. Deuxième place, c'est parfait.
Oui, une deuxième place comme il y a 4 ans. C'est vrai que quand vous passez Quartararo, vous êtes, je crois, à 6 secondes de Jack Miller. En fait, il reste à ce moment-là 5 tours. Vous comprenez assez vite que ce serait prendre trop de risques que de tenter de le rattraper. Vous préférez consolider la deuxième place, c'est ça?
Ouais, je perds pas espoir, et lui, selon l'usure des ses pneus, des fois, il peut y avoir une grande différence. Et ouais, comme vous dites, là, si... Quand j'ai doublé Fabio, j'étais à 10 secondes. J'ai quand même terminé à un petit 3 secondes, 2 secondes 9. Donc, c'est que la remontée était belle.
Alors, justement...
Et lui a bien assuré aussi le changement de moto, les deux premiers tours. Il a gagné beaucoup de temps et c'est pour ça que je n'ai pas eu le temps de le rattraper en fin de course.
Justement, Johann Zarco, Jack Miller a bien assuré le début de course. Vous parlez de remontée. La vôtre est pas mal non plus. Vous partez 5e sur la grille. À l'issue du premier tour, vous êtes 11e. Départ complètement raté. Et finalement, la remontada, c'est pour vous aujourd'hui, Johann.
Oui, exact. Le départ était pas bon. J'ai perdu beaucoup de place à la première chicane. À la fin du premier tour, je manque tombé aussi. J'ai fait une grosse glissade de l'arrière et je repère encore 3 positions. Donc, moi, l'arrivée de la pluie, elle m'a bien arrangé.
Ensuite, voilà, j'ai pu prendre l'avantage et ça a été bon.
Johan Zarco est l'invité du RMC Sport Show. Nous sommes toujours avec Marie Zévon GP, Jean-Luc Roy, Dream Team Sport Mécanique. Jean-Luc, une question pour Johan.
Oui, bah d'abord je te félicite hein, Johan, bravo, c'est formidable parce que un Grand Prix moto dans ces conditions-là, on le sait bien, c'est toujours terriblement risqué. Tu le rappelais il y a un instant, donc cette remontée météorique, surtout tu as su ménager les pneus. Moi aussi, un moment en direct sur l'antenne, je pensais que tu pouvais le rejoindre, Jack Miller, et puis on a compris qu'ils l'ont gardé un petit peu sous le coude hein, mais tu avais bien ménagé tes gommes.
Oui, merci. Exactement, c'est... Comme on dit, moi j'avais les deux pneus médiums et c'est ce qui m'a donné l'avantage quand la piste a séché. Ça m'a fait perdre un peu de temps sur mes deux premiers tours quand on est parti en pneus plis. Et voilà, ça joue à pas grand chose, hein. 2 secondes 9 à la fin c'est peu. Mais voilà, quand on voit tout le monde qui fait autant d'erreurs, voilà, c'est plus facile de faire une erreur que de terminer. Donc conditions délicates, 20 points dans la poche. Tout bénef, ouais, c'est top.
Et une troisième place au championnat du monde après 5 grands prix. Quartararo en tête, 1 point devant Bagnaia, et vous êtes juste là à 12 points. 2 Français sur le podium. Zarco, vous êtes Johan Zarco 2e, Fabio Quartararo 3e. Pas de Marseillaise, mais on a vu le drapeau quand même bleu, blanc, rouge que vous avez brandi fièrement avec Quartararo. Quels sont vos rapports avec l'autre pilote français de cette catégorie reine? C'est un pote, Fabio?
Les rapports sont très bons, hein. On n'a pas le temps de se voir hors Grand Prix, mais dès le moindre interview ou des choses qu'on doit faire ensemble, on voit que l'entente est extra. Donc, non, un très bon rapport. Après, on a une belle différence d'âge, 10 ans, presque 10 ans, je crois.
Un peu moins.
Et ben,
vous voyez, ouais,
rien que ça, ça c'est. Voilà, ça permet en fait de ne pas se tirer dans les pattes parce qu'on. On se sent bien et vaut mieux qu'on soit fort ensemble que tirer dans les pattes parce que c'est rare qu'il y ait deux Français à ce niveau-là.
C'est clair et ça donne de belles images à la fin quand vous vous tapez dans le point encore sur la moto et que vous brandissez un peu plus tard sur le podium ce drapeau bleu blanc rouge. Johan Zarco, quand vous voyez les 5 premiers Grands Prix de la saison, on le disait, vous êtes 3e maintenant du classement au championnat du monde. Est-ce que le titre mondial petit à petit ne serait pas en train de devenir finalement un objectif de cette saison?
Oui, de toute façon, j'ai quitté le Qatar après 2 podiums, 2 deuxièmes places et je suis parti du Qatar en tête du championnat du monde. Donc ça donne envie de croire au titre. Je pense en avoir l'expérience, la moto est prête. Après, j'ai besoin encore un peu d'automatisme sur cette Ducati. Mais ça commence à bien venir. Donc là, d'avoir repris la 3e place et d'être pas loin de Fabio, bien, je veux bien rester concentré, progresser sur ma moto pour obtenir à un moment donné peut-être ce rêve du titre.
Jean-Luc Roy, une dernière question pour Johan Zarco.
Oui, j'en aurais plein, mais on va se contenter d'une. Johan, quand on a appris la saison dernière que tu signais avec cette équipe Pramac et que tu disposerais de Ducati d'usine, effectivement, on a compris très vite que cette moto te convient bien. Hein. Tu aimes bien fonctionner au feeling, elle est réglée comme tu l'aimes. On va pas rappeler de mauvais souvenirs. T'as eu une machine précédemment avec laquelle t'avais du mal. Là, on a l'impression que tu es très à l'aise dessus, c'est le cas?
Exactement, oui, exactement. Parce que... Alors attendez un instant, je sors de la voiture, on est en train de faire la route.
Vous êtes en train de vous avez quitté Le Mans, direction la maison, c'est ça?
Oui, exactement, on rentre à la maison le plus vite possible pour pouvoir être à temps à la maison et pouvoir faire une bonne nuit.
Ouais, on ne fête pas le podium ce soir.
Je vous ai bien là au téléphone.
Ouais, on ne fête pas le podium ce soir du coup, c'est retour maison direct. Hein.
Je devrais être... autour de minuit, avant minuit à la maison, donc c'est pas trop tard, ça va me permettre de boire un petit coup avec la famille et de bien dormir.
Et juste pour conclure sur la question de Jean-Luc et cette moto, cette Ducati Pramac, vous ne faites qu'un avec votre machine désormais?
Bien, presque, mais je sens qu'il y a encore mieux à faire et c'est encourageant parce que même en pleine phase de progression, on chope des bons résultats, on prend des gros points au championnat. Et la saison, il y a encore au moins 10 courses. On ne sait pas avec le Covid s'il va y avoir des courses annulées ou pas. On en a fait 5. Je pense qu'il y en aura au moins 15 cette année. Donc, voilà, tenir jusqu'au bout pour grappiller les points. Les circuits qui arrivent devraient être encore plus favorables à la Ducati. on voit qu'elle devient de plus en plus homogène. Donc ouais, sur le papier, il y a tout pour.
Merci beaucoup en tout cas, Johan Zarco, d'avoir été l'invité du RMC Sport Show ce soir. Bon retour. C'est vous qui conduisez ou pas?
On était en Bluetooth. Là, on vient juste de s'arrêter pour faire le plein.
D'accord.
Et je vais passer le volant là. Ouais, à Romain.
Doucement, hein, doucement sur la route du coup. Hein. Ça y est, la course est finie, Johan. Rentrez bien et à très vite sur RMC. Merci, bravo encore pour cette deuxième place à la maison. À bientôt, Johan Zarco.
Merci à vous.
Merci, au revoir. Jean-Luc Roy, merci beaucoup. Oui. C'était un plaisir d'avoir cette interview avec Johan Zarco.
Ah bah écoute, c'est catégorie un type formidable. Tu sais, il est passé par des moments très difficiles. Ouais. Hein, bon, en deux mots, tu te rappelles la KTM, justement, il était pilote d'usine et puis cette machine ne marchait pas comme il voulait. Il a pas réussi à s'accoutumer à son pilotage. Il a eu le courage en pleine saison de quitter cette équipe d'usine où il était évidemment formidablement payé, repartir au bas de l'échelle. Et c'est pour ça que là, je peux te dire, ça doit avoir un coup particulier maintenant, ces résultats et le fait de se battre pour le titre, c'est magnifique.
Et la MotoGP revient dans deux semaines en Italie, mais Jean-Luc, on te retrouve dès la semaine prochaine pour le retour de la F1. Passe une bonne soirée.
Oui, à Monaco, dans les rues de Monaco.
À très vite. 19h17, le RMC Sport Show continue avec Marie Zévan GP en direct jusqu'à 20h. Dans un instant, le rugby et cette journée de top 14 qui n'a rien décidé finalement. Plus on s'approche de la fin, et moins on a de certitude. On fera également un tour de nos directs et ce match de titan, notamment entre Djokovic et Nadal. A tout de suite.
RMC Sport Show.
Thibaut Giangrande.
Avec Marie Zévan GP, comme tous les dimanches soirs en direct jusqu'à 20h. Avec ce soir quand même un peu de foot. C'est un dimanche particulier à 21h. Les 10 matchs de la 37e journée de Ligue 1 en direct sur RMC. Peut-être le titre lillois. Mais d'ici là, du foot déjà en Espagne. Là aussi, on peut être sacré. Là-bas, l'Atlético de Madrid peut être sacré. Anthony Reich suit tous ces matchs pour nous. On en est où, Anthony?
Oui, c'est la mi-temps, Thibaut, en Espagne, de cette mi-temps de la 37e journée de Liga, l'avant-dernière du championnat. Et c'est statu quo pour l'instant en tête du championnat, les trois premières équipes. Le leader, l'Atlético Madrid, est tenu en échec 0-0 sur sa pelouse, malgré une nette domination par Osasuna. Le deuxième, le Real Madrid, à 2 points de l'Atlético avant cette journée, toujours à 2 points, puisqu'il est les joueurs de Zidane sont aussi tenus en échec 0-0 dans une pâle première période. Et puis le Barça qui est aussi tenu en échec 1-1, le troisième, les Blaugrana, grâce notamment à un but de Messi.
Merci Anthony, à tout à l'heure et rendez-vous dès 20h pour un RMC Football Show exceptionnel autour de cette 37e journée de Ligue 1. Dans 10 minutes, on parlera longuement tennis, mais on va d'abord faire un point avec Eric Salio. C'est la finale du Masters 1000 de Rome. On est à 2 semaines du début de Roland-Garros et qu'est-ce qu'ils sont en train de se mettre, Djokovic et Nadal, Eric?
Ah oui, ça peut approcher les 3 heures de combat puisqu'on est à 2h08, on est au tout début du troisième set. Nadal mène 1-0, je rappelle le scénario, 7-5 Nadal, mais 6-1 Djokovic, ça nous promet des étincelles.
On reparle tennis juste après le rugby. Plus que 2 journées de top 14 à disputer. Et le suspense reste total à tous les étages.
La dernière action. On a beaucoup de tension pour ces Bayonnais. C'est presque un pas vers le maintien. Il y aura des matchs encore, mais ce serait une formidable bouffée d'oxygène. La mêlée à nouveau. Le ballon qui est libre, qui est disponible. On va ouvrir avec Zabalza derrière pour Ordaz. Ordaz qui dégage en touche. Et la victoire de Bayonne. La sensation, Ernest Vallon. Les Bayonnais qui se jettent les bras dans les uns des uns des autres. Et la joie, évidemment, alors qu'on est un peu tête basse côté toulousain.
Ouais, les Bayonnais, ils ont failli se jeter dans les bras dans les uns des autres.
Ah non, pire que ça, ils se jettent les bras dans les uns des autres.
Ouais, ouais, ouais. Ils se sont jetés des bras, en fait.
Exactement. C'était une boucherie, en fait.
Ouais. Et c'est Wilfried Templier qui commentait, salut, qui était en direct ce soir. Salut Wilfried.
Peut-être basse quand j'entends ça.
Ouais, non, mais tu nous as fait vibrer sur ce match comme d'habitude. C'est la 24e journée de Top 14 qui avait lieu ce week-end. Et finalement, Wilfried, rien n'a été tranché, que ce soit pour le maintien, pour le Top 6, même pour les deux places de demi-finalistes. À un moment donné, on a cru que c'était fait pour Toulouse et La Rochelle. Bah non, finalement, Wilfried.
Ouais, c'est le bazar. Hein. Toulouse a grillé un joker en perdant à domicile face à Bayonne, en ayant laissé de nombreux cadres au repos, on en reparlera après. Parce que les Toulousains, avec La Rochelle et le Racing, visent les 2 premières places directement qualificatives pour les demi-finales, sans passer par les barrages. Et Toulouse a aujourd'hui 1 point d'avance sur La Rochelle et 5 sur le Racing. Mais on peut penser que les Racingmen qui vont jouer à Agen et contre Brive vont faire le plein, alors que Toulouse recevra Clermont et ira à l'UBB, sans oublier la finale de Coupe d'Europe à gérer, après laquelle il faudra donc gagner un des 2 derniers matchs de top 14. C'est la même chose pour La Rochelle d'ailleurs, qui recevra Pau, ira à Clermont. Attention, le Racing rôde derrière Toulouse et La Rochelle.
Suspense pour les 2 premières places, suspense pour les 4 qui suivent. Le top 6 qui sera qualifié pour les phases finales du top 14. L'UBB, ça devrait être bon, cette victoire contre Castres hier, ça devrait permettre aux Castres d'y être.
Non, au Bordelais, tu veux dire. C'est ce qu'on voulait dire.
C'est ce que je voulais dire. L'UBB, c'est Bordeaux, ouais, donc c'est les Bordeaux.
L'UBB va y être, ouais. On le pense, mon cher Thibaut.
Victoire contre
parce que leur victoire. Exactement. Ils sont entrés dans les 6, 5e avec 62 points à égalité avec le Stade français. Mais deux matchs en retard. Et vous allez comprendre, Bordeaux, de ces deux matchs en retard, Bordeaux va aller à Agen vendredi. Donc, sans manquer de respect aux Agenais, hein, les Bordelais devraient l'emporter, même s'il faut toujours se méfier. Et ensuite, l'UBB reçoit le mardi suivant Montpellier. 4 jours après, seulement après la finale européenne des Montpellierains, qui ne pourront pas mettre toute leur force. Donc potentiellement, les hommes d'Urios ont entre 4 et 10 points de plus que ce qu'ils ont actuellement, ce qui les placerait aux portes des deux premières places, ce qui est assez incroyable. Mais Bordeaux, oui, avec ses deux matchs en retard et la grosse cote dans les 6.
Ouais, mais ça fait aussi, du coup, avec deux matchs en retard, ça fait aussi 3 matchs en l'espace de moins de 10 jours.
C'est
donc il va falloir qu'ils fassent tourner.
C'est vrai, mais ils ont un potentiel de points encore en plus qu'il faut pas mettre de côté, les Bordelais. Ah mais oui, tu as raison, il faudra aussi qu'ils jouent avec leur effectif.
Il va falloir gérer.
Outre l'UBB, Wilfried, cette fameuse sixième place, la dernière qui sera qualificative pour les phases finales du top 14, il y a quoi, 4 clubs qui lorgnent dessus encore à 2 journées de la fin. Ouais.
Ah, c'est dingue. Il y a 4 clubs avec sur les 2 dernières journées des Stade Français Lyon, Toulon UBB et sur la dernière Castres Toulon. Ça va être fou, hein. Donc quand tu parles du Stade Français, de Lyon, de Toulon notamment et de Castres. Voilà, ceux qui sont contents en fait, ce sont les Parisiens notamment parce qu'on les pensait cuits, le Stade Français pour la qualif et ils ont battu Montpellier. Ils sont actuellement 6e. Écoutez, le manager Gonzalo Quesada, il savoure un peu quand même.
Énorme satisfaction de gagner un 4e match affilé dans une saison qui a eu beaucoup, beaucoup de rebondissements. S'est retrouvé au moment clé de la saison à gagner 4 matchs ces derniers avec un bonus. Et évidemment, ça donne beaucoup de satisfaction.
Gonzalo Quesada au micro d'Aurélien Tiercin après la victoire du Stade français 32-10 contre Montpellier. Serré tout en haut, serré pour la 6e place, serré aussi tout en bas. Ça a bougé dans la course à cette fameuse 13e place. L'éviter, la place de barrage est Wilfried.
Et comment ça a bougé? Pau a loupé l'occasion de se détacher vendredi soir en s'inclinant à domicile contre le Racing, sans même le point de bonus défensif. Et les Palois ont vu l'Aviron Bayonnais s'imposer à Toulouse 32-28. 15 ans que les Basques n'avaient pas gagné Ernest Vallon. C'était janvier 2006, 14 points de Richard Dourte à l'époque. Là, c'est l'ouvreur Maxime Lafage qui a inscrit 19 des 32 points Bayonnais en faisant 7/7, 100% au pied. Mais un tel résultat, ça secoue. Écoutez le talonneur Maxime Delonca. Plein de sincérité après le match.
Ce qui est beau, c'est qu'on ne s'est pas menti cette semaine. On s'est resserré autour de notre groupe. On sait qu'on peut le faire, on sait qu'on peut et qu'on va et qu'on veut maintenir ce club en top 14 parce qu'il le mérite. On bosse super bien ensemble, on a un putain de groupe. En tout cas, on s'est envoyé pour les 23 qui étaient sur la feuille, pour tous les copains qui sont restés à la maison, pour tous les dirigeants, pour nos familles aussi. On est très, 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 très heureux.
On la sent un peu, Maryse, l'émotion, légèrement.
Oui.
Il avait les larmes aux yeux.
C'est évident, oui.
Bayonne.
Et pour tout le monde, là, en ce moment, il y a vraiment. C'est une fin de saison, je trouve, qui est passionnante.
Ouais, Bayonne qui s'est imposé à Toulouse hier, 32-28. Et l'entraîneur de l'Aviron, Yannick Bru, est en direct sur RMC. Bonsoir, Yannick.
Bonsoir.
Alors, la semaine dernière, après la défaite de Bayonne contre l'UBB, vous parliez de barrage. Vous disiez, faut qu'on soit prêt à jouer le barrage. On va jouer le barrage. Hier, vous gagnez à Toulouse. Pau ne marque pas un point dans le même temps, battu 35-29 par le Racing 92. Est-ce que ces barrages sont toujours d'actualité, malgré le fait que cette 13e place soit désormais paloise et plus bayonnaise?
Oui, non, c'est toujours d'actualité. La semaine dernière, j'ai dit la raison nous impose de se tourner vers le barrage parce que c'est un événement qui doit être préparé à l'avance. Mais il peut y avoir des surprises, hein, et on s'était préparé pour en créer une de surprise, forcément. Hein, tous les joueurs avaient envie de faire mieux. Maintenant, il reste encore 2 matchs compliqués. Là aussi, les matchs qui vont arriver ne sont pas simples pour nous. La section reçoit Montpellier pour la dernière journée, donc avec possiblement des Montpellierains qui vont terminer leur saison et qui n'auront plus rien à jouer. Et dans le même temps, nous, on recevra un Stade français qui potentiellement jouera une qualification européenne. Donc il y a encore des rapports de force.
On a perdu Yannick Bru.
C'est toujours d'actualité, hein. Ça ne change pas fondamentalement notre plan de marche.
Alors, on a eu une petite coupure, on va essayer de vous garder, Yannick Bru. Cet exploit à Toulouse hier, est-ce que peut-être il puise son origine dans ce qu'ont demandé les joueurs bayonnais? Ils se sont bougés cette semaine, ils ont demandé des réunions, ils ont voulu prendre les choses en main, c'est ça? Et ça a bougé à l'initiative des joueurs à Bayonne?
Ben, je dirais que comme chaque fois qu'il y a des défis, on a un groupe qui est très impliqué parce que On est dans un club et une aventure très affective à Bayonne, depuis qu'on est monté il y a 2 ans. Et le groupe de leaders se réunit chaque semaine avec nous. Et c'est vrai que nous, on n'était pas contents. On avait des exigences sur certains engagements des joueurs. Et les joueurs, cet engagement-là, eux, voulaient que quelques éléments de notre semaine d'entraînement soient modifiés. Donc, c'est l'avis de tous les groupes. Hein. Et on a discuté, et on a jugé que certaines demandes étaient fous. Voilà. Dans le sens de la santé sportive du groupe.
On va tenter une dernière question. Malheureusement, la qualité de la ligne est mauvaise. Yannick Brulle, entraîneur de l'Aviron Bayonnais, en direct dans le RMC Sport Show avec Marie-Zé Van GP, avec Wilfried Templier qui a une question pour Yannick.
Oui, il faut que Yannick se rapproche de la fenêtre parce que ça capte mal à Bayonne. Yannick, vous avez été joueur et entraîneur à Toulouse. Vous avez gagné des titres là-bas et vous connaissiez cette approche de finale de Coupe d'Europe. Est-ce que vous vous doutiez que c'était particulier pour les Toulousains de gérer le dernier match de Top 14 à une semaine de la finale de Coupe d'Europe, même si on ne minimise pas votre performance hier?
Je sais que c'est jamais simple, hein, pour avoir vécu en tant que joueur et entraîneur. Chaque staff a son approche. On voit qu'entre Rochelet et Toulouse, il y a une approche différente. N'étant pas à l'intérieur, dans l'intimité du vestiaire, moi, on ne peut pas porter de jugement. Ce qui est certain, c'est que forcément ça pèse sur les joueurs. On sait bien que les Toulousains cherchent cette cinquième étoile ardemment depuis 2-3 saisons. C'est l'objectif annoncé de la saison. Donc, je suis tout à fait conscient que les Toulousains avaient sûrement une partie de leur énergie qui était à tourner vers la semaine prochaine. Et c'est pour ça qu'on est très lucide aussi sur la performance qu'on a fait, qui est avec un Stade Toulousain un petit peu la tête ailleurs, mais c'était tellement important pour nous que ça suffit à notre bonheur.
Oui, Yannick Bruy, Wilfried parlait de cette finale de Champions Cup qui aura lieu samedi prochain entre le Stade Toulousain et La Rochelle. On en profite de vous avoir, vous l'avez dit, vous avez connu ces moments, ces victoires en Coupe d'Europe avec le Stade Toulousain en tant que joueur, en tant qu'entraîneur. Et nous, vu de l'extérieur, on a l'impression que c'est très indécis cette finale. Est-ce que vous voyez quelque chose qui pourrait faire pencher la balance côté Rochelais ou Toulousain?
Mais je pense que vous avez raison, parce que le combat va être très très indécis. Je crois que La Rochelle est la seule équipe en Europe qui physiquement, dans la densité de son paquet d'avant, peut rivaliser avec Toulouse. Parce que c'est vrai qu'on parle souvent de la ligne de trois quarts de Toulouse, mais c'est avant tout le 5 de devant de Toulouse qui secoue et qui est le socle des performances du stade. On l'a vu contre Clermont en quart de finale, on l'a vu encore contre Bordeaux sous la pluie en demi-finale. Mais La Rochelle, cette année, a quand même un pack en acier inoxydable, hein, avec Bourgarit, Skelton, Aldrit, en fer de lance. Je crois que, comme je l'ai dit hier soir, l'absence de Julien Marchand est un vrai sujet de préoccupation, parce que je pense que ça va niveler un petit peu le rapport de force entre les deux packs. Et je crois que j'ai vraiment beaucoup de mal à faire un pronostic pour cette finale.
Ouais, Julien Marchand suspendu pour cette finale.
Suspendu,
ouais. Merci beaucoup Yannick Bru, entraîneur de l'Aviron Bayonnais, d'avoir été en direct sur RMC ce soir. Bonne fin de saison à vous. On retrouvera l'Aviron dans 2 semaines à Montpellier. Merci Yannick.
Okay, merci.
Bonne soirée, au revoir. 19h31, le RMC Sport Show continue, toujours avec Marie-Zé Van GP jusqu'à 20h, avec Wilfried Templier. Cette finale de Champions Cup samedi prochain entre le Stade Toulousain et La Rochelle, on s'y projette déjà, on y est déjà, Wilfried. Et ce week-end de Top 14, ce qui est marrant de voir, c'est que les Toulousains et les Rochelais ont préparé leur finale de manière totalement différente dans les compositions de départ, en tout cas.
Il y a deux écoles, hein. Il y a les Toulousains qui ont mis du monde au repos. Si je vous donne rapidement la liste, Baye, Movaca, Faumouina, Keino, Dupont, Ntamack, Aki, Médard, Colby, Lebel. À part Movaca qui avait joué à Toulon, ces joueurs que je viens de vous citer n'auront pas joué entre la demi contre Bordeaux et la finale contre La Rochelle. Donc 3 semaines complètes de repos, même s'ils ont énormément bossé à l'entraînement. Mais on les a mis au frais, on a eu peur des blessés. Alors que La Rochelle a fait tourner la semaine dernière, a fait tourner en semaine à Brive en match en retard. Et hier, face à Agen, a remis doucement ses joueurs. Il y a eu un match complet, hein, pour Gourdon, Ouest, Doumerou, Leeds. Mais les autres, c'était par exemple 57 minutes pour Vito, 40 minutes pour Aldrit, 50 minutes pour Skelton, Antonio, Carbarlo. Donc voilà, les y a vraiment eu deux stratégies opposées. On verra le week-end prochain si ça paiera pour l'un ou pour l'autre, même si ces matchs-là voilà, sont très indécis et se jouent à peu de choses. Mais on verra sur la fraîcheur ce que ça donnera. Et en tout cas, on a vraiment hâte. Cette finale franco-française va être quand même assez géniale samedi à 17h45 à Twickenham.
Marie, sur ce thème-là de la préparation physique, toi, t'aurais été plus de l'école de mettre tout le monde au repos comme le Stade Toulousain une semaine, ou alors de remettre les titulaires dans le rythme? Non,
j'aurais donné du repos parce que la saison a été très longue. Alors c'est vrai que ça peut être à double tranchant, le repos, c'est-à-dire que c'est un repos, mais un repos actif avec de la vidéo, avec quelque chose ensemble. C'est-à-dire c'est pas du repos chacun de son côté, quoi. Ça serait un repos au vert ensemble avec des entraînements assez courts, beaucoup de fraîcheur, beaucoup de discussions, quelque chose qui unisse les hommes mais qui épargne un peu les organismes, oui.
Et la finale.
Je suis pas entraîneur de rugby en même temps, hein, donc.
Non, mais bon, sur la prépa physique,
45.
Tu t'imposes.
Tu t'es défendu.
C'est surtout en fait que c'est pas tellement la prépa physique, ils sont tous prêt, là, de toute façon, ils n'ont pas arrêté de jouer. C'est plus la fraîcheur mentale qui m'interpelle, et je pense qu'effectivement, le vainqueur des deux, ce sera celui qui sera le plus frais mentalement.
Il y en a un qui sera
nous,
bien frais, en tout cas, Twickenham.
Fraîcheur mentale.
Ouais, c'est Wilfried Templier qui va avoir la chance de se déplacer.
Ouais, surtout, et il va jeter des bras partout.
Ouais voilà. Il va pouvoir, bosser un peu son français. Merci beaucoup, Wilfried Templier. Passe une bonne soirée.
Allez, bonsoir.
Et on se retrouve dès demain pour cette semaine de Champions Cup qui a démarré ce soir dans le RMC Sport Show. 19h33 à suivre. Nadal Djokovic, la finale du Masters 1000 de Rome. C'est un énorme combat à deux semaines du début de Roland-Garros. Et puis l'invité du RMC Sport Show, un cycliste français vainqueur d'une étape du Giro, c'était hier. On vous emmène à la découverte de Victor Lafay dans un instant.
RMC Sport Show,
Thibaut Giangrand.
Le RMC Sport Show, merci d'être fidèle à votre rendez-vous sport du dimanche soir à la radio avec Marie Zévangépé, comme tous les dimanches soirs jusqu'à 20h. Ensuite, ce sera une énorme soirée foot sur RMC, la 37e journée de Ligue 1, les 10 matchs à 21h. Une soirée qui consacrera peut-être Lille, hein, dès ce soir, si le LOSC fait mieux contre Saint-Etienne que Paris contre Reims. Lille sera sacré champion de France. Et puis tiens, en foot, un truc incroyable qui vient de se passer. Marise, Liverpool vient de gagner à West Bromwich 2-1. Liverpool était mené 1-0 et c'est un but de la tête à la 95e minute du gardien Alisson qui permet à Liverpool de gagner un match qu'il fallait gagner pour croire à la Ligue des Champions. Et c'est incroyable parce qu'Alisson, il a coûté énormément de points.
Ouais,
c'est assez incroyable ce qui vient de se passer. En Angleterre, la fin de saison est folle. Mais d'abord, à 19h39, le tennis, la finale du Masters 1000 de Rome entre Nadal et Djokovic. On est à deux semaines du début de Roland-Garros, potentiellement à un mois de retrouver les deux en finale. Eric Salio est toujours là, il suit avec nous ce combat. Eric, c'est phénoménal ce match ce soir.
Ouais, c'est un grand match de tennis. Et toute la semaine à Rome a été fantastique. Je pense que c'est pas un hasard si le retour du public, ça a provoqué, ça a apporté une énergie supplémentaire à tous les joueurs.
Combien de personnes à Rome
Écoute, le stage, je pense qu'il fait 10 000, mais bon, ils doivent être 3-4 000.
Ah, quand même,
ça fait comme du bruit, les Italiens, on les connaît. Et il y a eu des matchs fantastiques. Là, on est à 2-2 dans la dernière manche. Nadal vient d'effacer des balles de break. Et je te corrige sur un truc, on aura peut-être bien d'en parler. C'est pas du tout évident que Nadal et Djokovic se retrouvent en finale de Roland parce que. Il y a un bug avec l'ATP. La tête de série numéro 2 sera Daniil Medvedev, quel que soit le résultat de ce match. Et donc, il y aura.
Ça, c'est acté.
Il y aura 50% de chance que Nadal et Djokovic
en demi.
Soient dans la même partie de tableau. D'accord. Tout dépendra d'une main.
Innocente. Bon, c'est pas Coach Courbis qui
est. Et j'avoue que c'est dommage que Roland Garros ne se protège pas de ce genre d'aléa.
Alors, quel est le score déjà sur cette finale de Rome, Eric?
Alors, un 7 partout, on l'a dit. 7-5 Nadal, 6-1 Djokovic et 3-2 pour Rafael Nadal dans cette dernière manche. Il est parvenu à sauver sa mise en jeu, mais il est moins fringant, je trouve, enfin, c'est mon avis personnel, moins fringant que lors de la première manche. Et c'est étonnant parce que je vous l'avais dit, je ne cesse de le dire, Djokovic hier a joué 4h56 puisque en cumulant la fin de son quart face à Tsitsipas et sa demi face à Sonego, il a laissé beaucoup d'énergie, mais pour l'instant, ça ne se voit pas. On est à 2h30 de match et Djoko est toujours aussi fit et c'est, bah, c'est pour ça que c'est le patron du circuit mondial. Hein.
Ouais, c'est incroyable. Si ça continue, Nadal n'aura plus de cheveux avant la fin du match. Maryse, on parle tennis depuis le début de cette saison sur terre battue. Une semaine, c'est Nadal est redevenu le patron. La semaine d'après, attention, il y a Tsitsipas, il y a Zverev, etc. Mais bon, quand Nadal et Djoko se retrouvent face à face comme ce soir, c'est eux les patrons. Quoi. Ils sont toujours là, malgré leur âge.
Face à face à ce niveau-là, là, on a l'impression, je ne sais pas Eric si tu es d'accord avec moi, que c'est un peu le tournant de la saison. Jusqu'à présent, ça ronronnait sous couvert de Covid, avec des stades à moitié vides, même s'il y a eu quelques tournois avec des spectateurs. Puis là, on a l'impression que bon, ça y est, c'est le printemps, tout va rouvrir, on s'y file, quoi. c'est la branlée du printemps, mais quelque part, ça fait du bien, parce qu'on va revoir des gros tournois, des grosses confrontations, et c'est génial, quoi.
Bah, Marie, il faut préciser que c'est le tournoi préféré des joueurs. Pourquoi ? Parce qu'il se déroule au niveau de la mer, alors que tout le monde sait que Madrid, à 600 mètres d'altitude, c'est pas des conditions normales. Et on le voit dans le palmarès de Nadal. Nadal n'a jamais été flamboyant à la Carrera Magica. Là, c'est la répétition générale, puisque en plus c'est une terre de tennis. Le Foro Italico, le central, est juste magnifique, parce que pour essayer de vous... Ouais, de vous montrer ce que c'est, ce sont des tribunes abruptes, et on dirait, tu vois, une arène,
oui.
Les gladiateurs. Donc, on a toujours des matchs fantastiques dans ce tournoi, et là, ça se confirme. Donc, ils veulent montrer les biceps, effectivement, avant Roland Garros, ça, même si, il y a un petit changement, c'est qu'il y aura deux semaines avant le début des internationaux de France. Mais moi, j'ai noté aussi quand même que. Il y a une anecdote qu'a raconté Novak Djokovic hier en conférence de presse à 23h ou à 22h. Il a dit avec Rafa, on s'est payé une bonne tranche de rigolade. Bon, ouais, parce que les jeunes, là, on leur a bien fermé la porte, mine de rien. Et j'entendais Rafa qui disait qu'on est vieux. Non, je ne suis pas du tout d'accord avec lui. On est encore jeunes. Et la next gen, faut qu'ils attendent un petit peu encore.
Bon, Nadal encore jeune, oui, sur le terrain, oui, après, faut pas regarder. Oui. Au-dessus, tiens, juste un mot, Eric, parce qu'il y avait aussi la finale dames aujourd'hui de ce tournoi de Rome. C'était un tout petit peu moins serré que de Djokovic-Nadal. Ça, c'est vraiment.
On a assisté à un truc assez incroyable. Iga Świątek a collé deux bulles à la pauvre Karolina Plíšková, qui est quand même pas n'importe qui. C'est une fille qui est dans le top 10.
Et, 6-0, elle a pas... 6-0,
ouais, deux bulles. En 46 minutes, 47 minutes, c'est. Moi, j'étais gêné pour la pauvre tchèque.
Bah, je m'arrive, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, je trouve ça terrible pour le tennis féminin, quoi. C'est pas une pub sensationnelle pour le tennis féminin qu'en finale d'un gros tournoi comme Rome, une des deux joueuses colle 6-0, 6-0 à l'autre.
Marie, oui, mais ça arrive. Dessus, hein, ce sont des choses qui arrivent. Ça arrive aussi. Peut-être pas 6-0, 6-0, mais on a vu des matchs expéditifs chez les hommes aussi. C'est clair que pour l'instant, effectivement, peut-être que les filles ont eu plus de mal au sortir du Covid, j'en sais rien, mais effectivement, on n'a pas encore le gros match référence comme on vient de le voir, ou fait comme on a en cours. Il est fini ou pas ? Non, il n'est toujours pas fini.
Oh là non, la malheureuse.
Comme le match fleuve là qui est en train de se passer. Mais voilà, moi, il faut arrêter avec les histoires de niveau. Il y a des périodes où le tennis féminin est presque. Où il y a presque plus de confrontations que les hommes. Il est en train de revenir. Donc là, effectivement, c'est clair que ce n'est pas une belle finale. On peut pas se réjouir d'une finale comme celle-là.
Świątek qui avait remporté Roland Garros l'année dernière.
4-2, 4-2 Nadal. Ouais. Nadal a peut-être fait le break décisif dans cette finale, justement. Un jeu blanc réussi sur le service de Novak Djokovic.
Si tu veux, on reste avec toi pendant 2 ou 3 heures.
Il était vraiment en grosse difficulté. Donc
il y en a qui bossent demain, Marisol. Merci Eric. La fin de ce match est évidemment sur RMC. On se retrouve dans quelques instants pour faire un nouveau point, un point sur le foot espagnol, en attendant notre grande soirée de Ligue 1 sur RMC dès 20h, avec les 10 matchs en direct à 21h sur RMC. En Espagne, le titre se joue peut-être en ce moment, Anthony Reich.
Ouais, 55 minutes de jeu sur les pelouses espagnoles de cette 37e journée de Liga et avant-dernière du championnat, et le leader, l'Atlético de Madrid, toujours tenu en échec par le 11e Osasuna, 0-0. Le deuxième, le Real Madrid, lui aussi est tenu en échec, les hommes de Zidane, 0-0 dans une pâle première période, et pareil en deuxième période face à Bilbao. Et puis le troisième, le Barça, qui est toujours aussi tenu en échec, un but partout. On rappelle la condition: si l'Atlético de Madrid gagne ce soir et en même temps que le Real perd, et bien les Colchoneros, les hommes de Diego Simeone, seront champions d'Espagne.
On n'y est pas encore. Merci beaucoup Anthony, à tout à l'heure. À suivre, l'invité du RMC Sport Show, Victor Lafay, vainqueur de la 8e étape du Giro hier. Une belle découverte dans un instant sur RMC.
RMC Sport Show, Thibaut Viangrand.
Avec Marine Desmond VP jusqu'à 20h avant une immense soirée foot sur RMC. 10 matchs de la 37e journée, les 10 matchs à 21h à vivre en intégralité sur notre antenne. On sera partout, sur tous les stades, pour vivre la course au titre, la course à la Ligue des Champions, à l'Europe, le maintien. Rendez-vous dès 20h pour une soirée exceptionnelle. Mais d'abord, à 19h48, place au cyclisme, un Français a brillé sur le Giro.
Il reste 200 mètres, il lève le point. C'est fait pour Victor Lafay. Premier succès de cette ampleur-là pour le tricolore, le coureur de la Cofidis.
L'invité du RMC Sport Show.
Et vous l'avez peut-être vécu hier en direct sur RMC, le commentaire de Pierre Amiche et donc la victoire de Victor Lafay qui est en direct dans le RMC Sport Show ce soir. Bonsoir Victor.
Bonsoir.
Félicitations pour votre victoire d'hier. Alors, on imagine que peut-être ça vous semble déjà loin, parce que le Giro, c'est 3 semaines de course, et aujourd'hui, grosse étape de montagne au programme sur le Tour d'Italie.
Oui, c'était très dur aujourd'hui. Ça me paraît pas loin, non, forcément, j'ai encore plein d'images qui reviennent de la victoire d'hier, mais c'est vrai qu'il faut quand même se remobiliser et se reconcentrer sur les étapes qui arrivent.
Et justement, sur l'étape d'aujourd'hui, victoire d'Egan Bernal, qui s'est imposé en patron, il prend le maillot rose. Comment ça s'est passé pour vous?
Oui, alors moi, j'ai quand même essayé de prendre l'échappée au début. Ouais. Après, j'ai vu que les jambes, elles étaient quand même un peu dures, ouais, voilà. Mais c'est finalement un coéquipier, Nicolas Hédé, qui a réussi à prendre la bonne échappée. Et ensuite, les favoris n'ont pas laissé beaucoup de temps, et ce qui a fait que Egan Bernal a pu revenir, je crois, dans les 400 derniers mètres sur les derniers rescapés de l'échappée.
Alors, on a porté chance, Victor Lafay, à votre équipe, la Cofidis, parce que la semaine dernière, à la même heure, on était avec votre manager, Cédric Vasseur, qui dit de vous, il est calme, attentif, il faut le mettre à l'aise, le détendre. Est-ce qu'il vous a bien cerné?
Oui, je pense que depuis un ou deux ans, je suis comme ça. C'est vrai qu'avant, j'étais un peu plus foufou et forcément, j'avais pas encore l'expérience. Mais maintenant, j'essaie de garder mon calme tout le temps et d'essayer de bien analyser les situations. Et je pense que c'est ce qui m'a réussi hier.
Victor Lafay, l'invité du RMC Sport Show ce soir, vainqueur de la 8e étape du Giro, première victoire française depuis Arnaud Démare. Marie Zévan, j'ai pas une question pour Victor Lafay.
Oui, mais je d'abord félicitations. Je voulais Merci. Savoir ce que ça ouvre comme possibilité, parce qu'effectivement, moi, je ne vous connais pas, et puis, même si je suppose que le monde du vélo vous connaît très bien, est-ce que ça va ouvrir des courses plus importantes pour vous? Finalement, ça change pas grand chose à votre quotidien.
Alors, ça va pas forcément m'ouvrir d'autres courses. De toute façon, c'était prévu que je fasse sûrement le Tour de France l'année prochaine avec l'équipe. Mais par contre, ça va peut-être changer un peu mon statut dans l'équipe. Et du coup, sur certaines courses où des fois j'étais plutôt équipier, peut-être que l'équipe va me laisser ma chance pour que j'aille obtenir un résultat. Donc c'est un changement de statut, mais du coup avec une pression aussi supplémentaire et oui, il va falloir endosser.
Eh oui, à partir du moment où on se fait remarquer, on ne peut plus se cacher.
Tour de France, exactement. L'année prochaine, ça veut dire que c'est certain qu'on ne vous verra pas cet été sur les routes du Tour?
C'est quasiment certain, enchaîner Giro et Tour, c'est très compliqué pour un coureur expérimenté, mais alors pour moi ce sera encore plus difficile. Donc normalement, je ne serai pas sur le Tour de France cette année.
Alors, Victor Lafay, vous parlez de coureurs expérimentés, de jeunesse. Vous avez 25 ans quand même, mine de rien, déjà. J'ai vu que vous avez été pas mal blessé ces dernières années. Est-ce que c'est ça qui peut expliquer peut-être une éclosion un peu plus tardive que d'autres?
Oui, je pense tout à fait. J'ai été blessé l'année 2019, où en fait, j'ai fait vraiment une saison blanche. Ce qui a fait que j'ai pris quand même un an de retard. Ça m'était déjà arrivé en 2015 quand j'étais amateur. Donc c'est ces petites choses qui ont fait que j'ai pris du retard. Et puis je pense aussi une maturité un peu tardive, que ce soit justement dans l'entraînement, dans la diététique, etc. J'ai vraiment pris le temps en fait de progresser à mon rythme. Et c'est une éclosion tardive, mais voilà, j'arrive quand même à éclore et je suis content. Et
sur le profil, on vous classe comment? Grimpeur, baroudeur, à l'avenir, sur quelle étape faut vous attendre?
Je pense plutôt puncher grimpeur. Alors voilà, à l'avenir, je sais pas si je vais plutôt pencher pour le côté puncher, plutôt grimpeur, ou je vais continuer à rester comme je suis. Mais en tout cas, pour l'instant, mes efforts préférés, ça reste quand même entre 5 et 10 minutes. les longs cols, j'ai encore du mal à les passer.
Victor Lafay, le cycliste français de l'équipage G2R, est en direct dans le RMC Sport Show, vainqueur de la 8e étape du Giro hier. Ça faisait presque 2 ans que votre équipe, la Cofidis, n'avait pas gagné en World Tour. Vous avez eu un petit coup de fil des patrons quand même, vous avez pu fêter ça un petit peu, parce que 2 ans sans victoire, ça fait long pour une équipe cycliste.
Oui, après... on a connu beaucoup d'autres victoires, mais pas à cet échelon.
Ouais.
Donc c'est sûr que j'ai eu le manager Cédric Vasseur qui m'a appelé, et puis Thierry Vitu aussi, qui est encore au-dessus de Cédric chez Cofidis.
Le N+2 carrément.
Donc, forcément. Ouais, voilà. Non, mais ils m'ont tous félicité. Ils étaient tous très heureux, et moi j'étais vraiment aussi heureux de leur avoir apporté ça.
Et on a le temps de fêter ça sur une course comme le Giro hier soir. Qu'est-ce qui s'est passé après l'arrivée?
Oui, c'est sûr, il y avait beaucoup de joie dans l'équipe parce que ça fait énormément de bien. C'est toujours l'objectif, mais les objectifs, c'est très compliqué à les atteindre. Donc, il y avait beaucoup de joie. Puis après, on a quand même bu un petit verre, ouvert le champagne. Ah. Mais avec modération, parce que forcément, 3 semaines de course, on ne peut pas se laisser aller un soir.
Vous tenterez d'aller en chercher une petite deuxième, faire claquer la deuxième victoire, Victor?
Bah forcément, maintenant, ça va être objectif d'essayer de récidiver. Mais que ce soit moi ou un autre de l'équipe, on a encore des chances au sprint avec Elia Viviani, mais en montagne, il y a aussi Nicolas Hédé et Rémi Rocha. Donc je pense qu'on peut aller en chercher une deuxième.
Merci en tout cas à Victor Lafay d'avoir pris quelques minutes pour nous répondre ce soir en plein Giro, en direct dans le RMC Sport Show. Bonne suite de Tour d'Italie et à très vite, on l'espère.
Merci beaucoup, passez une bonne soirée.
Merci, salut Victor. Oui. 19h54, ouais. Le RMC Sport Show continue. Nous sommes en direct avec Eric Salio pour cette finale de dingue du Masters 1000 de Rome. Eric, on est tout proche d'une victoire de Nadal. Oui,
l'Espagnol s'est même procuré une balle de match il y a quelques secondes, puisqu'il mène 5-2 dans la dernière manche. C'est Djokovic qui est au service. Djokovic l'a effacé, ou plutôt Rafa l'a raté. En gros, il a boisé un revers. Bon, ça peut lui arriver de temps en temps.
Ah oui, hein. Cédric Pellier en a fait quelques-uns.
Ouais, et donc Djokovic est toujours en vie. Et il a une balle pour revenir à 5 jeux à 3 dans cette dernière manche.
Bah, on la suit, Eric. Si jamais le jeu est remporté,
avec plaisir.
On acte le fait que le résultat tombera dans le RMC Football Show comme ça.
Ouais, mais ça, je m'en doutais. Je l'avais plus ou moins prévu.
Oui, voire même dans l'after, hein, à un moment donné.
Ça, c'est peut-être moins sûr. Il y a tie-break au troisième. Donc Djokovic. Qui est dans les cordes, hein, clairement, depuis quelques dizaines de minutes. On voit bien qu'il est moins saignant. Et là, une amortie de Nadal dans le filet. Donc, 5-3. Djokovic est toujours en vie. Et c'est Nadal qui va servir pour le gain du match.
Et comme prévu, le résultat, ce sera donc dans le RMC Football Show. Merci beaucoup, Eric Salio. Merci, Maryse. Passe une bonne soirée.
Bonne soirée.
On se retrouve dimanche prochain avec Oussem, peut-être. Hein, on l'espère. On l'embrasse, en tout cas, dans le RMC Sport Show. Ça va finir
bon
par se voir, quand même.
Ouais,
exactement. 19h55.
Il est fragile, Oussem.
Eh oui, ouais. Bichette. Dans un instant, le RMC Football Show autour de Gilbert Bribois. Soirée foot exceptionnelle sur RMC à 21h. Les 10 matchs en direct sur notre antenne. On est sur tous les stades pour vivre peut-être le titre lillois, la course à la Ligue des Champions, à l'Europe au maintien. Excellente soirée foot sur RMC.
RMC Football Show, Liga Uber Eats.